« À mon seul désir », murmure la dame à la licorne sur le 6e panneau de la série de tapisseries du même nom. Transition toute trouvée après le sujet de notre première partie des matins. Et tant pis si l'on n'a jamais vraiment su de quel désir il s'agit. Après 4 mois de travaux, le musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge à Paris, quartier latin, a rouvert ses portes samedi dernier sur un parcours de visite restreint dans un premier temps car la modernisation du musée n'est pas totalement terminée. Mais les plus belles pièces de sa collection sont là. Et beaucoup d'autres choses. Nous recevons ce matin sa directrice, bonjour Elisabeth Taburet-Delahaye.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et son architecte, bonjour Bernard Dumoulin.
Desmoulins.
Merci d'être également avec nous. Alors on sait le succès qu'avaient les livres de Jacques Le Goff, médiéviste connu dans le monde entier et qui nous racontait si bien le Moyen-Âge. On sait aujourd'hui le succès d'un jeu comme Game of Thrones. Qu'est-ce qui nous plaît tant, Elisabeth Taburet-Delahaye, dans cette période ?
Bonne question. Je crois que c'est à la fois ce qui est proche et ce qui est lointain. Vous parliez des licornes. C'est aussi la magie du Moyen-Âge, cette sollicitation de notre imaginaire. Et puis, cette proximité avec notre époque. Jacques Le Goff, Duby aussi disait, mais quelle est la ville qui n'a pas une église médiévale? Quel est le village qui n'a pas une petite église qui, éventuellement, une partie médiévale? Donc voilà, le Moyen-Âge est à la fois... Quel est le paysage où on ne voit pas une tour, un bout de château datant du Moyen-Âge? Donc voilà, le Moyen-Âge est à la fois proche et lointain. Il nous est à la fois familier et source d'imagination. Il est merveilleux.
Il nous fascine, mais par ailleurs, je suis pas sûre qu'aucun d'entre nous aurait aimé y vivre, parce que quand on parle Moyen-Âge, on pense aussi à l'âge des ténèbres, à la peste noire, aux guerres. On dit le Moyen-Âge d'ailleurs, mais entre Charlemagne et Jeanne d'Arc, il s'en est passé des choses.
Alors là, je me lève vigoureusement contre toutes ces formules un peu toutes faites, trop faciles. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Eh bien, beaucoup de qualités ou de défauts que l'on attribue à la période médiévale sont ceux soit de tous les temps, soit ceux de périodes beaucoup plus difficiles ou beaucoup plus éloignées de ce que nous estimons être un horizon à atteindre que la période médiévale. Alors certes, la période médiévale a connu ses terreurs, ses guerres, ses difficultés. Elles sont propres à la vie humaine. Voilà. Malheureusement.
Alors, de ce Moyen-Âge, quelles empreintes le musée de Cluny donne-t-il à voir pour ceux qui n'y sont encore jamais allés, outre les légendaires tapisseries de la Dame à la licorne sur lesquelles nous reviendrons? Qu'est-ce que vous proposez à l'occasion de cette réouverture?
Alors, à l'occasion de la réouverture, nous proposons surtout, j'allais dire, de l'architecture. De l'architecture gallo-romaine, avec les thermes qui ont été restaurés tout récemment, de l'architecture médiévale avec cet extraordinaire hôtel construit pour Jacques d'Amboise aux environs de 1500 et sa chapelle flamboyante également restaurée tout récemment. Et puis ce bâtiment que nous avons inauguré le 13 juillet, ouvert au public le 14 juillet, heureux hasard du calendrier, et qui est dû à Bernard Desmoulins.
Bernard Desmoulins, est-ce que vous avez pour ce bâtiment utilisé et fait selon les techniques et les matériaux de l'époque, type château de Guédelon?
Non, bien sûr que non. Non, on a voulu faire un projet contemporain, inscrit dans son époque, qui vient justement continuer une histoire qui commence avec les termes de Cluny et qui se prolonge au XXIe siècle. Il est vrai qu'il y a quelques petites références, notamment sur la vêture du bâtiment où on s'inspirait de certains éléments que l'on peut voir dans la chapelle gothique. Mais pour l'essentiel, c'est un bâtiment qui appartient à son époque. On est sur le boulevard Saint-Michel et il aurait été pour moi inimaginable de proposer un pastiche. C'est vraiment un bâtiment qui est là aussi, je vais employer le mot qu'a utilisé Elisabeth, qui a par certains côtés a une apparence peut-être familière. Mais je reviens sur ce mot, c'est un bâtiment contemporain.
Bernard Desmoulins, votre regard d'architecte en 2018 sur ces termes gallo-romains qui datent de la fin du premier siècle, sur l'hôtel des abbés de Cluny, bijou d'architecture évidemment, qui les termes s'étendaient sur 6000 mètres carrés à l'époque. Quand Lutèce n'était pas encore Lutèce.
Oui, je pense que c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une toute petite partie de ce qui existait. Moi, j'ai toujours considéré que c'était une sorte de, enfin, que c'était situé au centre de gravité de la ville, hein, voilà. Et donc, nous nous sommes installés sur une sorte de, comment dirais-je, de morceaux de l'histoire, puisqu'on va effectivement du deuxième siècle jusqu'au XXe, en passant par le médiéval, le XIXe, etc. Donc le regard qu'on a, bah, effectivement, c'est une leçon d'architecture. C'est une situation exceptionnelle. On peut voir cette imbrication d'architecture, d'époque, de savoir-faire. Et quand je suis dans le Frigidarium, qui est la pièce maîtresse des thèmes que l'on peut voir aujourd'hui, c'est évident qu'on est ému parce que c'est une véritable leçon. C'est-à-dire, on a des portées magnifiques, on a un savoir-faire. C'est à la fois assez simple et impressionnant.
Un détail qui vous a servi de leçon comme architecte ?
Oui, par exemple, j'ai souvent parlé avec les conservateurs. Je ne suis pas un spécialiste de l'architecture historique, c'est vrai que quand on m'explique que les Romains ont inventé le béton, ça me dit quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai envie de travailler sur cette idée qui fait que, bah voilà, là où dans l'architecture contemporaine, il y a une forme de prétention à croire qu'on invente tout, on regarde derrière soi et on s'aperçoit que tout était déjà là, quoi. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on se réfère à quelque chose d'aussi spectaculaire que ces fameux termes.
Alors, les travaux avaient aussi pour objectif de valoriser les collections, lit-on dans le dossier de presse, et selon, surtout plutôt l'expression consacrée, pardon. Est-ce à dire qu'elles ne l'étaient pas ou pas assez? Et comment vous y avez travaillé, Bernard Desmoulins?
Alors, ici, dans un premier temps, nous avons réalisé que l'accueil. C'est-à-dire un bâtiment qui va pouvoir réorganiser à partir de ce lieu tous les parcours. Et notamment la jonction entre la partie vestige et l'hôtel médiéval. Mais après, il y a un projet qui suit sur la réorganisation des collections. Je pense qu'Elisabeth pourra en parler mieux que moi, bien que j'en sois un des auteurs. Mais...
Oui, en quelques mots, oui. Si vous voulez bien. Alors, Elisabeth Taburet-Delahaye.
En effet, ce bâtiment d'accueil qui regroupe déjà de très nombreuses fonctions, puisqu'il est à la fois le lieu d'entrée, le lieu de jonction entre les thermes et le Moyen-Âge, l'hôtel et les adjonctions du XIXe siècle, mais il est aussi un lieu de vie. Il y a par exemple un grand espace sécable en deux pour les ateliers pédagogiques, et on sait combien l'accueil des jeunes dans nos musées est quelque chose d'important, qui tient d'ailleurs beaucoup à cœur à notre ministre, la ministre de la Culture. Il y a aussi un grand espace de régie des œuvres, et c'est terriblement important dans un musée comme le nôtre. Tous les musées ont maintenant des espaces d'accueil pour les œuvres. Et puis aussi, nous présentons donc une exposition sur le thème de la licorne, la salle de la Dame à la licorne et une petite salle destinée à des présentations temporaires qui recueille quelques-uns de nos plus beaux trésors, quelques-unes de nos œuvres précieuses, les plus importantes, les plus célèbres.
Dont on parlera, le musée du Moyen-Âge, d'accord, mais cette exposition temporaire que vous proposez à l'occasion de sa réouverture a un petit esprit pop, magique licorne consacré à cette créature légendaire devenue emblème LGBT ou produit commercial, c'est selon aujourd'hui. Mais au Moyen-Âge, il y a aussi une mode de la licorne, et c'est à vous que je pose la question, vous êtes spécialiste de licorne. Moi, je trouve génial de pouvoir dire « bonjour, je suis spécialiste de licorne ».
Là, vous me flattez beaucoup. Il se trouve que j'avais travaillé sur la tenture de la Dame à la licorne. Au sein de l'équipe, c'est maintenant plutôt Béatrice de Chancel que vous, France Culture, avez accueilli il y a peu de temps, qui reprend le flambeau de l'étude de cette œuvre qui est notre sorte de Joconde. Ce qui est vrai, c'est que lorsque l'on essaye d'apprivoiser la tenture et ses animaux emblématiques, le lion et peut-être surtout la licorne, on entre, comme nous le disions tout à l'heure, dans un monde à la fois magique et merveilleux. Et à l'occasion de cette réouverture partielle, l'idée a été de présenter à un public le plus large possible un regroupement d'œuvres qui aide à comprendre ce qu'était la licorne, à la fois pour les hommes, les êtres humains du Moyen-Âge, et pourquoi et comment elle fascine aujourd'hui.
Quand est-ce qu'elle est représentée pour la première fois ?
Alors, la licorne est d'abord, ça passe tout, Michel Pastoureau le dit très bien, la licorne apparaît d'abord dans les textes, et depuis l'Antiquité, Ctésias, Pline, etc. Et c'est effectivement au Moyen-Âge qu'on la voit représentée, et qu'elle est à la fois décrite dans les textes, souvent très précisément, pas toujours de la même manière, mais ça c'est aussi le merveilleux du Moyen-Âge, et qu'on commence à la représenter. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand on lit par exemple les récits de voyageurs, certains sont sûrs d'avoir rencontré des licornes. Et ça n'est qu'à partir du XVIe siècle, avec certaines apparitions de doutes critiques, ou de doutes pleins d'humour, tels que chez Rabelais, qu'on commence à mettre en doute l'existence de la licorne. Et donc, pour nous, ce qui a été très, très intéressant et ce que nous souhaitons partager avec le public, c'est ce constat que vers 1500, il y a une mode de la licorne, dont notre tenture est une des œuvres les plus emblématiques, mais elle n'est pas seule. Elle est une des plus célèbres, mais elle n'est pas seule. Et il se trouve qu'il y a, depuis l'acquisition de cette tenture, donc 6 pièces de tapisserie, par le musée, en 1882, une mode licorne qui s'est développée au XIXe siècle, le ballet de Cocteau par exemple, dont nous présentons deux costumes, et qui se poursuit de nos jours chez les artistes, mais également dans la vie sociale et commerciale, et vous y faisiez quelques allusions.
Eh bien voilà, c'est comme un provincial que je suis descendu de mes échafaudages de Villefranche et de Menton, où je tournais en rond, loin du monde, comme toujours comme le bébé lune. J'en suis descendu afin de terminer le travail de La Dame à la licorne, un ballet de Heinz Rosen, dont j'ai composé l'intrigue, le décor et les costumes. Le thème est célèbre, vous le connaissez tous, c'est celui des tapisseries rouges de Cluny, c'est le thème de la mort et de la virginité. La licorne n'accepte de se nourrir que par la main d'une vierge. Arrive un chevalier qui change la vierge en dame. Le chevalier passe son chemin, la licorne meurt et il ne reste à la dame, à la licorne, que ce fameux un seul désir, la mort. Suprême virginité des âmes blessées. C'est avec celui de Tristan Isolde que j'ai paraphrasé dans mon film L'Éternel Retour, le plus beau mythe que je connaisse.
Jean Cocteau, vous avez peut-être reconnu sa voix en 1957 dans l'émission Avant-première. Jean Cocteau qui fit de la licorne un ballet. Les artistes s'en sont inspirés de la licorne, que ce soit Mérimée, Georges Sand quand ils ont l'âge de s'y intéresser, Gustave Moreau en peinture et tant d'autres. Est-ce que la science s'en est emparée un moment de la licorne?
Alors justement, la science s'en est emparée au XVIe siècle pour mettre en doute la réalité de son existence. Et j'allais dire, le mystère continue jusqu'à nos jours, puisque on ne sait pas exactement comment cette corne de narval est devenue l'attribut de l'animal imaginaire que nous appelons licorne. Et un historien d'art qui est actuellement conservateur au musée d'Édimbourg a essayé de qui s'appelle Xavier Decteau, qui est aussi conservateur de musée. D'ailleurs, il a été conservateur au musée de Cluny pendant quelques années, a essayé de creuser l'histoire, le mystère de cette association curieuse de l'attribut, cette sorte de dent d'un animal marin et du corps d'un quadrupède avec des attributs de quelques autres animaux. Et voilà, ça se passe quelque part dans les terres arctiques, du côté du Groenland, où des chasseurs recueillent sans doute les squelettes de ces animaux, donc de narval, notamment la tête dont on ne sait pas quoi faire, avec cet attribut assez extraordinaire, dont ils font un produit commercial. Et ça aussi, c'est très humain comme histoire. Et c'est par ces voies venant du nord vers le sud, vers les royaumes d'Angleterre, de France, sous forme de cadeaux, notamment aux plus grands princes, aux plus grands souverains, que les premières cornes de licorne arrivent en Occident et que cet animal trouve une image, une représentation et un succès qui ne se dément pas, en effet, jusqu'à aujourd'hui.
Des jouets, des t-shirts, du maquillage, des glaces, c'est devenu un argument de vente dans la société de l'image aussi, peut-être, tout simplement.
Oui, bien sûr. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir que, pour nous, que même jusque dans le CAC 40, il existe des entreprises que l'on appelle des licornes, parce qu'elles vont très vite en développement. Et en effet, l'un des attributs, enfin l'une des qualités attribuées à la licorne, c'est qu'elle va très vite.
Bernard Desmoulins, vous avez travaillé un peu autour de la restauration de cette tapisserie ou de sa mise en valeur ?
Non.
Pas du tout ?
Non, elle avait déjà été mise en valeur, je crois, par Paul Barnou, c'est
ça ? Qui est notre architecte monument historique.
Non, on n'a pas touché cette salle. Je crois que c'est l'une des seules, d'ailleurs, qui va rester en l'état.
Mais elle vous a inspiré d'une manière ou d'une autre, cette dame à la licorne ? Elle a surveillé les travaux ?
Non, parce que quand j'interviens quelque part, je me laisse émerveiller simplement, mais ça n'a pas forcément de lien avec mon travail. C'est-à-dire que, alors, je pense que ça en a un, mais inconsciemment. C'est-à-dire que peu à peu, on va découvrir au fil du temps peut-être telle ou telle influence, mais il n'y a pas de rapport direct comme ça.
Et alors, nous donnerez-vous, Elisabeth Taburet-Delahaye, le secret de cette inscription sur la sixième tapisserie à mon seul désir?
Alors oui, j'entendais Cocteau. Effectivement, j'ai reconnu la voix, mais je ne connaissais pas, je l'avoue, cet enregistrement. Lui, il y voit le désir de mort. Ce n'est pas très surprenant quand on connaît un petit peu Cocteau. La pensée, les écrits de Cocteau. La pensée médiévale est une pensée polysémique. Le désir, c'est à la fois un désir qui peut être moral, spirituel, le monde d'en haut, puisque... Bon, les cinq autres tapisseries, ce sont quand même les allégories des sens, du plus matériel qui est le toucher, à ceux qui élèvent l'âme dans la pensée médiévale, qui sont l'ouïe et la vue. Et donc, le désir peut être un désir spirituel, d'accès du monde matériel au monde divin. C'est une pensée que l'on trouve tout au long de la période médiévale. Mais ça peut être aussi le désir humain. L'inscription peut être lue de plusieurs façons. Il y a deux lettres, un A et un I de part et d'autre. Et certains historiens d'art ont vu dans ces deux lettres les initiales d'un couple. Et pourquoi rejeter l'hypothèse selon laquelle il pourrait s'agir d'une tenture commandée donc par un membre de la famille leviste, puisque ce sont les armoiries qui ont été identifiées sur chacune des pièces, qui sont répandues à foison, donc d'un membre de cette famille pour une aimée, avec ce goût du mystère qui passe par le rébus, qui passe par les initiales, qui est typiquement médiéval.
Alors, pour terminer cet entretien, parmi les pièces et les collections qui survivront à celle de la licorne, celles que vous venez mettre en valeur à l'occasion de la réouverture de ce musée, lesquelles auriez-vous chacun envie de citer, donnez-nous envie d'aller les voir, Bernard Desmoulins?
Moi, j'ai eu la chance de pouvoir mettre en valeur dès l'accueil l'Annonciation, qui est une pièce maîtresse du musée, qui m'a ému. Quand on m'a demandé de choisir une pièce pour mettre dans l'accueil, j'ai choisi celle-ci parce que je trouvais qu'elle avait une sorte de grâce, tout simplement. Je la trouvais émouvante. Voilà.
Qu'est-ce que c'est, une sculpture?
Non, ce sont deux pièces. C'est l'Annonciation. C'est l'ange Gabriel qui annonce à Marie que... Voilà. Et j'ai simplement trouvé une forme d'élégance, de grâce.
Et on l'a trouvée où, cette pièce-là? Alors, elle date de quand?
C'est une annonciation de la deuxième moitié du XVe siècle, qui était connue depuis le XIXe siècle en Normandie, dans le château de Bois-Héroux, et qui a été acquise il y a une bonne quinzaine d'années maintenant par le musée. C'est une œuvre très monumentale, donc qui avait trouvé sa place dans notre parcours précédent, mais voilà, qui nécessite de l'espace. Et en effet, quand Bernard Desmoulins, c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés, nous a dit, mais là, il y aurait peut-être la place pour une œuvre, nous nous sommes dit tout de suite, mais pourquoi ne pas accueillir les visiteurs avec cette œuvre qui symbolise elle-même d'ailleurs l'accueil, hein, et qu'elle accueille, mais là aussi on est dans la pensée mystique et merveilleuse du Moyen-Âge. Et il se trouve que ce soit du point de vue des proportions ou de la vision que l'on en a au rez-de-chaussée dans le hall ou depuis le palier de l'escalier quand l'on redescend à la fin de la visite, c'est vraiment une très très belle vision.
Vous continuez à faire des acquisitions régulièrement ?
Nous espérons, nous le tentons, ça n'est pas toujours facile, mais effectivement dans cette petite pièce qui accueille quelques-uns de nos trésors, nous présentons aussi pour la première fois au public une Vierge à l'enfant entourée d'anges, peinte par Jean Hay, le fameux maître de Moulins, l'un des plus célèbres artistes du Moyen-Âge et peut-être le plus célèbre des peintres français du Moyen-Âge, qui a été acquise l'année dernière grâce à la fois à un mécénat important, mais qui... souhaite conserver l'anonymat, et puis au fond que le ministère de la Culture peut mettre à notre disposition. C'est une de nos plus belles acquisitions récentes et l'une de celles dont nous sommes particulièrement fiers. Aussi, pas uniquement parce que le peintre est célèbre et que l'œuvre est belle, mais parce qu'elle est porteuse d'émotions et justement de ce contact direct avec les œuvres que nous souhaitons établir avec le public.
Merci Elisabeth Taburet-Delahaye. Merci à vous Bernard Desmoulins, respectivement directrice et architecte du musée de Cluny dans le quartier latin, où, outre cette exposition temporaire sur la licorne, magique licorne, eh bien, on peut admirer ces termes gallo-romains, l'hôtel des abbés de Cluny, des peintures, des sculptures, des vitraux et des pièces d'orfèvrerie. Merci à vous deux d'avoir été avec nous.
Merci. Merci.